Ce message vous est proposé gratuitement et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
J'aimerais commencer le message aujourd'hui par une définition. La définition de l'ennui. L'ennui est un sentiment de démotivation et de désintéressement. Il y a beaucoup de personnes qui s'ennuient. Et on a dit que d'un côté, on se plaint que la vie, elle est courte, et d'un autre côté, on a des personnes qui s'ennuient, même au milieu de beaucoup d'activités et de beaucoup de choses. On peut constater, par exemple, qu'un enfant dit « je m'ennuie ». Il peut être au milieu de ses jouets, et puis il dit « je m'ennuie » parce qu'il a envie de rien de ce qu'il voit. Et on remarque qu'en grandissant, le comportement humain n'est des fois pas tellement différent. Il y a plein d'opportunités, mais finalement l'ennui, d'après cette définition, c'est un sentiment de désintéressement. On ne s'intéresse pas à ce qui nous est proposé, motivation. Il est dit aussi dans la Bible que si on ne consacre pas à un moment précis du temps pour rechercher l'Éternel, notre Créateur, alors il y a un moment qui viendra où on dit « je n'y prends point plaisir ». Il y a un moment où il y aura ce désintéressement, cette démotivation. Et pour d'autres choses, c'est valable aussi. Beaucoup de gens sont à la poursuite du bonheur, en particulier bonheur conjugal, trouver quelqu'un à aimer. Et donc là aussi, on parle beaucoup, c'est la grande question et la crise, l'ennui dans le couple. Donc, comment éviter l'ennui dans le couple? Ça préoccupe énormément de personnes. Donc, j'avais vu aussi un témoignage, donc voilà, je vais vous le lire. Comment éviter l'ennui dans un couple? Donc, c'est une jeune femme qui témoigne. « Je suis en couple depuis plus de 10 mois. Mon copain m'a avoué qu'il trouvait qu'on se voyait trop longtemps en ce moment. Genre 3 à 5 jours non-stop. Il préférait qu'on se voit que le week-end, comme avant. Sinon, on risquerait de se lasser l'un de l'autre et la routine finirait par s'installer d'après lui. J'étais vexé parce qu'il m'a dit, mais je suis plutôt d'accord. Car quand on passe trop de temps ensemble, on finit par s'ennuyer à un moment donné. Même si je me sens bien et heureuse quand on est ensemble. On sort souvent avec ses potes, ou tous les deux, dans des bars, dans des soirées. Mais quand on se retrouve chez lui ou chez moi, on ne sait pas vraiment quoi faire. Nos occupations se résument. Regarder la télé, aller sur l'ordinateur, dormir, manger, faire des câlins. Il n'y a vraiment rien d'autre à faire. Si bien qu'on s'ennuie un peu, que la routine va finir par nous gagner à force. Alors, question. Et vous, ça vous arrive de vous ennuyer avec votre chérie et ne pas vraiment savoir quoi faire? Vous n'avez pas besoin de répondre. Quand c'est le cas, que faites-vous pour vous occuper ou casser la routine? Donc voilà, un beau tableau brossé des situations dans notre société où en fait, on peut rire ou alors avoir un peu de pitié quand même pour ces gens. Il y a un décalage total avec le plan de Dieu. Déjà, quand on est vraiment amoureux, on ne se pose pas de questions qu'on est trop ensemble. Ça n'existe pas, ça. Et quand on a compris le cadeau que Dieu nous offre au travers de la vie qu'il nous a donnée, on ne s'ennuie pas. Il y a des tas de choses à faire. Mais, qu'est-ce que j'ai dit en introduction? Le sentiment de désintéressement et démotivation peut facilement nous gagner. Pourquoi? Parce qu'on est en fait mal orienté. On cherche dans une direction totalement erronée. J'ai lu aussi la méditation d'un de ces jours, c'est peut-être même d'aujourd'hui, dans sa parole pour aujourd'hui, et je vais vous le dire, parce que je trouvais que ça collait tellement bien. La question c'était, quand serez-vous enfin satisfait? La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. C'est bien le problème de ces gens qui disent, je suis en couple. Déjà, on ne sait même pas ce que ça veut dire, je suis en couple, d'accord? Parce que l'autre est comme un objet de satisfaction. Donc, j'en ai envie de temps en temps, et puis de temps en temps, j'ai pas envie. Donc, il fait partie des objets, des choses. Et c'est ça qui motive la plupart des gens. Luc 12, 15, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Que signifie pour vous avoir la belle vie? Conduire la voiture la plus puissante, posséder la plus grosse propriété, porter des vêtements dernier cri, occuper l'emploi le plus prestigieux possible? La vision de Dieu sur ce sujet est radicalement différente. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, nous nous attachons à découvrir la façon dont Dieu pense et dont Dieu voit les choses. Quand on dit « laissez-vous transformer par le renouvellement de l'intelligence », ça veut dire une autre façon de voir les choses. Alors on est constamment en conflit avec certains modes de pensée, c'est normal. Mais au résultat, qu'est-ce qui est important? L'important, c'est que nous, on découvre ce que Dieu veut, parce que ça sera forcément le meilleur pour nous. Pourquoi courir après des chimères, après des rêves inaccessibles? Jésus a donné une mise en garde. Il a dit « Gardez-vous de la cupidité. Même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et c'est justement ça le problème. Un monsieur Chesterton a dit « Il n'y a que deux manières d'être satisfait dans la vie. Soit en passant son temps à accumuler des biens matériels, soit en désirant de moins en moins de biens matériels. » Et donc, le grand écrivain Soljenitsyn a découvert cette vérité dans une prison soviétique, au fond de laquelle il avait perdu sa liberté. Ses amis, son foyer, ses chers livres. Après des mois de solitude en Antarctique, un autre monsieur, l'amiral Richard Byrd, a écrit « Je suis en train de découvrir qu'un homme peut jouir intensément de la vie sans posséder grand-chose. » Notre génération est sans nul doute obsédée par les biens matériels. Jamais autant de fortunes n'ont été accumulées aussi rapidement que ces dernières années. Plus le monde nous paraît complexe et difficile à comprendre, plus nous nous réfugions dans ce passe-temps douteux qui consiste à acquérir toujours davantage de gadgets et de décorations souvent inutiles. Sans attache spirituelle, les hommes de notre temps s'imaginent encore que la clé du bonheur, c'est d'avoir davantage de biens matériels et davantage de temps libre. C'est comme si les deux ne vont pas ensemble. La technologie avance à grands pas, nous convainquant que pour rester à la hauteur, nous avons besoin du dernier modèle d'ordinateur, de télévision. Et pourtant, le vrai bonheur est à portée de main et ne tient pas à grand-chose pour nous dégager de l'emprise des biens matériels. Comment donc être vraiment satisfait? Jésus a dit au jeune homme riche, « Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Matthieu 19, 21. Ce n'était pas ce qu'il voulait entendre. Dieu est-il donc opposé à l'idée que vous avez de l'argent? Non. Mais il déteste l'idée que votre argent puisse prendre la première place dans votre cœur. Place qui lui revient de droit. Il sait que là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Matthieu 6, 21. Et rappelez-vous bien que dans les évangiles, à un moment donné, il nous est dit que quand Jésus a commencé à donner des enseignements sur l'argent, les pharisiens, ils étaient furieux. Ils ne pouvaient pas supporter ça. Pour eux, c'était simple. Si Dieu me bénit, je suis riche, donc c'est la preuve de l'approbation de Dieu sur ma vie. Mais en réalité, c'était une façon de satisfaire leur cupidité. Et quand Jésus commençait à dire « Vous ne pouvez pas servir les deux choses, vous devez choisir entre Dieu et Mammon », c'était une occasion de chute pour eux, parce qu'ils ne comprenaient pas la réalité. C'est pourquoi il était tellement radical avec certaines personnes, il disait « Tu as besoin de tout vendre. Tant que tu n'auras pas coupé avec cette façon de voir les choses, tu ne pourras pas progresser dans ta vie avec Dieu. » Donc il est important que nous puissions toujours localiser notre cœur. Et c'est aussi, et c'est ça qui est dommage et qui est tragique pour tous ces gens qui courent après le bonheur, mais qui essaient de reproduire des modèles de notre société où justement je suis en couple avec un tel, j'essaye un peu, au bout d'un moment l'ennui s'installe, donc j'essaie de nouveau avec quelqu'un d'autre, etc. Et là je ne parle jamais de personnes qui ont vécu des moments difficiles, une rupture ou des choses comme ça. Je parle seulement de cette légèreté avec laquelle on traite certaines choses, alors qu'il y a quelque chose de tellement gratifiant, tellement quelque chose qui nous élève, qui nous bénit dans le concept de ce que Dieu a voulu pour le couple. Et dans ce cadre, j'aimerais vous lire ce texte de Éphésiens 5, 23. parce que nous sommes vraiment dans ce sujet et c'est la seule façon dont on pourra vraiment avoir la perspective de Dieu sur son plan pour l'être humain, pour l'homme et la femme et pour la relation entre Dieu et l'ensemble des humains. Éphésiens 5, 23, le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Et quand nous disons chef, tout de suite, on peut avoir des perturbations au niveau de notre compréhension parce que quand il est dit chef dans la Bible, ça veut dire c'est la tête. Ce n'est pas une espèce de contre-maître avec un fouet comme sur les chantiers des pyramides ou d'autres choses comme ça. Un chef, c'est la tête, c'est celui qui est le modèle, qui montre l'exemple, qui prend les responsabilités. Dernièrement, j'ai eu l'occasion aussi de partager une citation de M. Ziegler sur Internet, et il disait « Les grands leaders, ce ne sont pas ceux qui disent aux autres quoi faire, c'est ceux qui montrent comment ils ont fait les choses. » Donc, ils ont précédé, un leader, c'est quelqu'un qui conduit, qui est en train derrière lui, ils ont précédé, ils ont fait quelque chose, ils ont montré comment ça marche, et maintenant on a envie de les suivre. Mais des gens qui toujours faites ce que je dis et faites pas ce que je fais, les gens commencent à en avoir vraiment ras-le-bol, comme on dit. Et donc il y a un mouvement maintenant qui se crée aussi, où des gens ne veulent plus ça. Donc il n'est pas du tout question de ce genre de chef, puisqu'il nous est dit ici, Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. C'est-à-dire, il a tout fait pour l'Église, et il a montré l'exemple, il a été le premier. Et dans ce sens, l'Église se soumet à Christ. La soumission, ce n'est pas un gros mot. Je ne vais pas dire jamais je ne me mettrai sous un parapluie, ce serait ridicule. Si j'ai envie d'être abrité de la pluie, je mets le parapluie, je me soumets, je me mets en dessous et je suis protégé de la pluie ou du soleil, c'est comme vous voulez. Mais c'est une question simplement de bon sens, d'intelligence, de sagesse, de dire s'il y a quelqu'un de si puissant et de si aimant à notre égard qui veut nous faire du bien, pourquoi je ne me soumettrai pas à lui ? Donc l'Église, elle se soumet volontiers à celui qui a donné sa vie pour nous. Et donc, il dit de la même façon aussi, les femmes peuvent se soumettre à leur mari, dans le sens que s'ils ont tout fait pour la protéger, pour l'aimer, pour en prendre soin, etc., pourquoi elles ne profiteraient pas de cette protection qu'il lui offre dans ce cadre ? Il dit, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée, lavée par l'eau de la parole, et pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Donc là encore, on en a parlé il n'y a pas longtemps ici, on a dit, Dieu n'attend pas notre perfection pour s'occuper de nous, pour nous faire du bien, pour être notre ami. C'est pas ça. Mais il est vrai que être dans sa présence, vouloir lui plaire, nous conduit à être constamment dans un phénomène de transformation. On transforme des choses, on le laisse changer des choses. Si on est assez intelligent pour ça, on le laissera transformer des choses, parce qu'on comprend que ce qu'il nous offre, c'est toujours mieux que ce que nous avons. Quand il nous est dit « Dépouillez-vous du vieil homme pour revêtir l'homme nouveau », c'est toujours les mêmes exemples qu'on peut reprendre. Si on vous offre un nouveau manteau et que vous vous cramponnez à votre vieux qui est moche, usé, démodé et tout ce que vous voulez, vous ne pourrez pas revêtir le nouveau. À un moment, il faudra l'enlever. Mais tant qu'on dit « Non, moi je le garde, je le garde, je le garde », vous ne l'aurez pas le nouveau. Donc avec Dieu, il y a un dépouillement pour qu'il y ait nouveau un revêtement. C'est ça le projet de Dieu. Alors voilà, c'est ainsi que les maris donc, doivent copier, ça c'est dans un cadre conjugal, doivent copier l'attitude de Jésus, aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Ou alors, ça veut dire qu'il y a un problème psychologique. Les gens qui veulent se nuire à eux-mêmes, c'est des gens qui ont des problèmes. C'est quelque chose qui ne tourne pas rond dans leur tête et qui peut conduire certains à avoir des tentatives de suicide ou d'autres. Mais le suicide, il peut être direct ou indirect. On peut se suicider, hélas, à petit feu, en peu à peu adoptant des attitudes de mort, alors que Dieu nous offre la vie, justement. Donc, prendre soin de son propre corps, cette enveloppe dans laquelle est notre esprit et que Dieu nous a donnée pour agir sur terre. Alors au contraire, il nous est dit, on en prend soin, on le nourrit, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Le Seigneur le fait pour l'Église. Il en prend soin, il la nourrit. On ne peut pas dire, oh Dieu, où est-ce que tu es, tu fais rien. Non, il est tout le temps là. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair, de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux ne feront qu'un. Combien de fois ce passage non plus n'est pas respecté? Les gens ne comprennent pas. Tant que les beaux-parents, etc., influencent tout le temps le jeune couple, il ne peut pas y avoir l'émergence et le développement d'un vrai foyer. Il y aura toujours une ingérence, une interférence. Il y a un moment où il doit y avoir un détachement. Ça ne veut pas dire que ça doit être brutal ou violent ou maintenant on ne se parle plus, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'à un moment donné, on crée quelque chose de nouveau ensemble et sous le regard de Dieu. Et maintenant, il nous est dit, ce mystère est grand. Un mystère, vous vous rappelez, c'est quelque chose qui est caché. Mais ça ne veut pas dire que ça doit toujours être caché. Quand certains disent les voies du Seigneur sont mystérieuses, impénétrables, voilà, c'est tellement on connaît cette phrase, mais elle n'a pas de réalité biblique. Parce que nous connaissons au contraire, dans Jérémie, il dit « Invoque-moi et je te ferai connaître, je te révélerai, je te montrerai. » Donc il y a plusieurs aspects, ils veulent montrer. Alors quel est ce mystère? Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc il y a là des prescriptions ou des conseils, ou prenez-le comme vous voulez, mais là, c'est une réalité, c'est un fait. Donc, comment éviter l'ennui et l'ennui dans le couple? Ça sera toujours en revenant à la base de l'amour de Dieu, de découvrir quelle est cette nature. L'amour humain peut toujours être entaché d'un peu ou beaucoup d'égoïsme. Hein. Même, on parle de l'amour maternel, mais quand c'est mon bébé, mon bébé, mon bébé, personne n'a le droit de le toucher, quelqu'un pourrait lui communiquer une saleté, une maladie, un truc, oh là là, et personne ne peut le tenir parce qu'il pourrait tomber, il y a que moi qui peux bien m'en occuper, et après ça crée un sentiment, vous voyez, même des fois bien intentionné, finalement on se retrouve à faire quelque chose qui est complètement contraire à l'intérêt de tous ceux qui sont concernés. Donc de la même façon, dans un couple, on peut vouloir tellement être ensemble qu'à la fin, on s'étouffe littéralement. Donc il faut comprendre que nous sommes deux individus et de la même façon que ces deux individus ne vont jamais totalement fusionner pour qu'on ne puisse plus distinguer qui est qui. De la même façon qu'entre nous et Dieu, c'est la même chose. Nous ne sommes pas appelé à disparaître. Il nous a créés pour qu'on soit des individus et pour qu'il ait un des vis-à-vis. Dieu a créé ça. Il a voulu ça. Vous resterez toujours, d'une certaine façon, vous-même. Vous-même. Pas avec votre sale caractère ou vos défauts, d'autres choses comme ça. Mais le vous, vous allez rester. Mais ce mystère est grand, il nous est dit, c'est quelque chose d'extraordinaire de savoir que Dieu avait ce plan. Et dans ce plan, plus on s'y intéresse, il n'y a pas de place pour l'ennui. D'accord ? L'ennui ne doit pas exister parmi nous. Des fois, nous sommes tellement occupés qu'on a peut-être besoin de gérer aussi des temps de coupure. Et pour quelqu'un qui est très très actif, je crois que une période de coupure est difficile à gérer. Hein? Moi, je peux facilement l'imaginer. Des fois, c'est comme, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas qu'on ne sait pas quoi faire, c'est que on est tellement habitué à avoir le planning et plein de choses, et beaucoup de choses, en fait, nous ne les faisons plus par choix, mais comme pousser vers l'avant. Il faut faire ci, et encore ça. Et ce sont des bonnes choses. Et tout va dans un sens de notre engagement, des choses à réaliser. Mais au bout d'un moment, on est entraîné dans quelque chose qu'on ne maîtrise plus. Donc, il y a des moments où il faut savoir remettre les choses en place, et en particulier, donc, qu'il y ait ce dépouillement. Ce dépouillement, ça veut dire qu'à un moment, on arrive où il n'y a plus que nous et Dieu. Plus rien d'autre n'existe. Et ça doit arriver régulièrement. On doit avoir ce temps de solitude avec lui. Lui et nous. Parce qu'il s'agit de lui d'abord. Quand Jésus a rencontré plusieurs personnes qui voulaient le suivre, chacun a dit, « Seigneur, je te suivrai, mais laisse-moi d'abord prendre congé. » Chaque fois, c'était, « Oui, Seigneur, mais moi d'abord, je vais faire ça. » Ça ne marche pas. Et puis, nous avons un moment où, quand ce n'est plus que lui et nous, il y a un manque qui se crée. Vous l'avez déjà expérimenté, ça ? Quand vous essayez d'avoir juste un temps avec Dieu, dans un premier temps, vous allez éprouver un manque. Un manque parce qu'il veut le remplir. Il veut remplir ce sentiment de solitude. Il n'y a que lui qui peut le faire. Mais beaucoup de gens passent à côté parce qu'ils le remplissent toujours, 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 chaque moment. Et Dieu ne peut pas remplir. Mais il y a un moment où Dieu est avec nous. Et pour certains, j'aimerais dire, qu'est-ce qui se passe quand Dieu est avec nous et que ça ne nous suffit pas ? Il y a un ennui qui se crée. Qu'est-ce qu'on a dit ? Ennui, c'est démotivation et désintérêt. C'est-à-dire que peu à peu, on s'est éloigné du fait que la présence de Dieu crée en nous un enthousiasme, une joie, une présence, etc. Alors là, il faut que les voyants se mettent au rouge et que vous preniez conscience que vous êtes alors peut-être dans un manège religieux pour ceux qui sont chrétiens, où vous remplissez de plein d'obligations, vous avez votre vie bien orchestrée, mais il faut que vous ayez des moments où vous mettez les compteurs à zéro et vous recommencez. Vous recommencez, vous dites, ah, je mets tout à plat, je vois maintenant où j'en suis. Quelqu'un dit une fois, mettre les compteurs à zéro, ça fait peut-être penser aussi à votre voiture. Quand vous faites le point, vous appuyez pour mettre le compteur à zéro, pour voir combien vous allez consommer à nouveau. Il y a des moments dans la vie, il faut maintenant se mettre à zéro. Quand nous avons commencé le centre chrétien, on ne savait pas du tout comment on allait maintenant diriger une église ou faire plein de choses. On était avec un groupe d'amis, on n'était pas très nombreux. Et puis ça fait bientôt 20 ans que ça dure. Et on a eu des occasions de partager avec des personnes qu'on a commencé à zéro. Parce qu'il y a des gens qui viennent pour implanter une église, par exemple. Quelqu'un les a envoyés, ils viennent d'une autre église, qui les a envoyés comme missionnaires, il y a du soutien, il y a des conseils. Nous, on a découvert avec Dieu, on a fait des erreurs peut-être, mais on a aussi eu de belles pages et des victoires. Mais on a commencé à zéro. Et quelqu'un qui était passé et qui est dans le ministère a dit, quand je vous voyais au début, vous n'avez pas commencé à zéro, vous avez commencé en dessous de zéro. C'est la façon de nous encourager. Et à un moment, j'avais dit, on a commencé avec rien. Et quelqu'un m'a répondu, vous n'aviez rien que Dieu. Et en fait, en disant cette phrase, on a tout compris. C'est quand plus on découvre ça, on n'a rien mais juste Dieu. Ah oui, mais finalement, ça suffit de l'avoir lui. C'est plus important que n'importe quel autre soutien. Mais c'est valable maintenant que ce soit une église, que ce soit des projets, que ce soit votre vie de couple. Si vous avez rien, mais juste Dieu, vous pourrez tout construire, tout reconstruire, tout recommencer. Et vous n'allez pas vous ennuyer. Quand Moïse était dans cette présence du buisson ardent, il a vu quelque chose d'extraordinaire. On aimerait plus vivre des choses comme ça. Enfin, je ne sais pas comment vous êtes, mais un peu de surnaturel, ça fait du bien. Hein, des choses extraordinaires comme ça. Vous êtes là en train de garder les moutons, vous êtes sur une montagne, ça fait des années qu'il n'y a rien qui se passe. Et tout à coup, il y a un buisson, il y a du feu, mais il ne se consume pas. C'est un phénomène mystérieux. Vous approchez et là, une voix vous parle, c'est Dieu. Il vous parle et il vous dit des choses précises sur votre vie. Et quand vous vivez cette expérience, vous vous rendez compte que c'est spécial. Hein, mais à un moment même, il a enlevé ses souliers. Donc il y avait quelque chose, hein, ce lieu est saint. Il était conscient qu'il y avait quelque chose de surnaturel. Et nous, on dit, oh, si je vivais ça, là, ma vie serait totalement transformée. Mais Moïse est là en discutant avec Dieu. Dieu lui dit, je vais t'envoyer. Ah non, non, moi, j'y vais pas, hein, moi je peux pas. Hein. Et il discute avec Dieu. Et là, il est dans cette même situation que beaucoup de personnes. Quand Dieu dit, je suis avec toi, mais ça ne me suffit pas, il me faut plus. Hein. Il faut plus quoi ? Qu'est-ce que tu veux de plus que d'avoir l'assurance que Dieu est avec toi dans ce que tu fais ? Et Dieu lui dit, mais je serai avec toi. Il est obligé de souligner, d'insister, mais je serai avec toi. Ah oui, mais Et finalement, Dieu doit dire, ben bon, il y a ton frère Aaron, je suis d'accord que vous fassiez équipe et il va t'encourager. Donc, on passe à côté de quelque chose. Mais bon, Dieu a toujours des plans, hein, comme on dit, B, C, D, il y a 26 lettres à l'alphabet. Mais le plan A, on le rate souvent. C'est pour ça que moi, j'aimerais bien que tout le temps, on se pousse vers le plan A, le meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu, c'est aussi dans notre vie d'église. On peut s'ennuyer. Il y a des gens qui disent « je m'ennuie à l'église ». Comme ceux qui disent « je m'ennuie dans mon couple » ou « je m'ennuie au milieu de mes jouets » ou « je m'ennuie ». Quand on a décidé de s'ennuyer, on s'ennuie. Mais quand on comprend ce que c'est l'église, on ne s'ennuie plus. Alors comme ça, tu t'ennuies à l'église. Jean 4, 24 dit que ce que le Père demande, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. C'est tout ce qui compte. Ce que nous avons fait en tant que société moderne, chrétienne du 21e siècle, de l'Église extérieurement, n'est pas la réalité. C'est que des aspects, c'est que des choses extérieures. Mais l'Église elle-même, elle n'a pas changé dans sa nature. Elle est créée de ceux que le Seigneur a appelés, et la signification de l'Église, ça veut dire appeler hors d'eux. Il nous a appelé hors du monde pour devenir son peuple, sa nation, et un peuple royal et de sacrificateur. Et nous pouvons lire ça dans un instant dans 1 Pierre, mais le problème que certains ne comprennent pas, c'est que ils voient l'Église comme quelque chose d'extérieur. On ne va pas à l'Église comme on va au spectacle. On essaie d'attirer les gens, c'est pour leur bien, pour la bonne nouvelle, pour qu'ils puissent découvrir Jésus. On rend l'Église le plus attractive possible. Et tant mieux s'il y a des bons groupes de louanges, s'il y a une bonne atmosphère, si le cadre est agréable et tout ça. Mais la réalité de l'Église ne doit jamais nous échapper. C'est qu'on ne va pas à l'Église. On n'y va pas. Ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un endroit. C'est une réalité spirituelle. C'est que nous la composons. Nous sommes son corps. Nous serons son épouse, mais nous sommes son corps. Et actuellement, il est la tête et nous sommes son corps. La tête, le chef, c'est lui qui donne la direction et nous le suivons. Et nous le suivons dans quoi ? Ben dans ce que nous venons de dire à l'instant. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Cette présence de Dieu, cette communion doit être notre objectif. Si le message était bon, si la louange était bonne, si les amis étaient là, si c'était chaleureux, tout ça c'est très bien. Mais si vous n'avez pas fait une rencontre avec Dieu, vous l'avez adoré en esprit et en vérité, vous n'êtes pas arrivé à l'aboutissement de votre culte. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire quand vous voulez. Mais en général, on n'arrive pas à passer d'un endroit à l'autre instantanément. Et nous sommes dans un endroit où nous sommes ici, dans un monde naturel. On voit des choses, on a des occupations. Et alors, des fois, on essaie, comme par un claquement de doigts, d'aller dans un autre monde spirituel. C'est pour ça qu'il est important pour nous d'avoir toujours cette vision de l'échelle de Jacob. Hein. L'échelle de Jacob, rendez-vous compte, des centaines et des centaines d'années avant la venue de Jésus sur terre, Jacob avait une vision, qu'il y avait une communication entre le ciel et la terre. Et que les cieux, à un moment donné, seraient ouverts. Et Jésus a repris cette image pour dire, les cieux sont ouverts au-dessus de nous. Il y a une communication permanente et possible. L'adoration, et là je répète encore des choses que j'ai déjà eu l'occasion de dire, ce n'est pas simplement un moment précis dans le culte où les chants deviennent doux et on dit certaines choses. L'adoration, c'est un moment spirituel où le Saint-Esprit vous conduit à réaliser que vous êtes en présence de Dieu. Et des fois, il n'y a pas besoin de musique, il n'y a plus besoin de paroles et de rien du tout. Donc, l'action de grâce, c'est une bonne chose, hein. On monte à Jérusalem avec des actions de grâce, disent les psaumes. On se tient dans la louange, on dit les bienfaits de Dieu, on dit ce qu'il est, tout ça c'est très bien. Et vient un moment dans l'adoration où c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit à être dans cette communion. Alors à ce moment-là, quand on a cet objectif, il y a des moments, on ne s'ennuie pas à l'église, on ne s'ennuie pas nulle part. Parce qu'on sait que n'importe quel endroit, je peux avoir ce moment de réelle communion avec Dieu. Et je pense que l'ennui que certains peuvent expérimenter ne vient que du fait qu'ils ne savent pas réellement ce qu'est l'Église ou ils ne connaissent pas vraiment la nature de leur relation avec Dieu. Certains n'ont pas rencontré Jésus. L'apôtre Paul le dit dans une des épîtres, je dis à votre honte en parlant à ceux à qui il écrit, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Donc il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Donc ils font des choses qui ressemblent à tout ce qu'on pourrait faire dans un cadre religieux, mais en réalité ça ne correspond pas à la réalité de ce que Dieu veut faire. Jésus a donné cette illustration d'un grand repas où les gens seraient, il a dit, quand tu vas à un repas comme ça, tu t'assois à la dernière place. Comme ça, quand le maître viendra, il dira, mon ami, monte plus haut, viens plus près de moi. C'est une illustration de, ce n'est pas à toi de t'imposer dans la présence de Dieu, mais tu as juste besoin de répondre à son appel. Donc tu t'humilies devant Dieu pour qu'il t'élève au temps convenable. Mon ami, monte plus haut. Quelle belle invitation de la part de Dieu. Vous vous rappelez aussi que dans les évangiles, à un moment donné, quand quelqu'un a répondu avec intelligence, donc il avait compris un certain nombre de choses sur le royaume de Dieu, Jésus lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas loin du royaume de Dieu, mais ils ne l'expérimentent pas pour autant. C'est-à-dire, toute leur religion est dans la tête, dans l'intellect, mais il y a quelque chose de plus. Et nous voulons certainement être dans le royaume, expérimenter le royaume. Alors, que nous dit 1 Pierre 2, j'avais dit qu'on allait le lire ensemble. Approchez-vous de Christ, verset 4. La pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Un groupe de prêtres saints. Un groupe de prêtres saints. L'invitation est donnée à chaque chrétien, homme ou femme, qu'ils doivent se laisser édifier pour former cette maison spirituelle. Vous voyez, il n'est pas question de bâtiment, il n'est pas question de hiérarchie dans le corps de Christ, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée par ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Elle est aussi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Ils s'y heurtent parce qu'ils désobéissent à la parole et c'est à cela qu'ils ont été destinés. Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Ce texte est tellement important qu'on s'en imprègne régulièrement parce qu'on se rend compte qu'au fil des siècles, on a fait un grand écart, grand décalage entre la réalité spirituelle et nos pratiques. On a eu beaucoup d'apports au niveau de la culture, des traditions, des choses comme ça. C'est intéressant de voir même pourquoi on célèbre le dimanche maintenant. Le dimanche, c'était le premier jour de la semaine chez les Juifs, mais c'était un jour où on travaillait. Ils ne passaient pas leur dimanche dans les synagogues, juste en train d'écouter la parole de Dieu. Il y avait le sabbat, le samedi, d'accord ? Là, ils allaient à la synagogue en tant que Juifs. Et le dimanche, premier jour de la semaine, ils se rassemblaient, encore une fois, en tant que chrétiens, pour se rappeler de la résurrection du Seigneur Jésus. Mais ça ne se faisait pas toute la journée, ils étaient à leur travail, à leurs activités. Voyez, et donc pour des raisons historiques, on a mis le dimanche en place, mais assez rapidement on se rend compte que les gens après, ils substituent à la réalité spirituelle nouvelle des traditions anciennes. C'est ainsi que dans l'esprit de beaucoup de gens, le sabbat juif a été remplacé par le dimanche chrétien, Ce qui n'est pas du tout la pensée de Dieu. Mmh. Puisque la pensée de Dieu, c'est qu'on soit à lui 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et tout le temps en communion. Maintenant, s'il se trouve que historiquement, on a les dimanches comme jour de repos, congé pour la plupart des gens et qu'on peut s'y rassembler en tant qu'église, bien sûr, on va en profiter. Mmh. Mais l'important, c'est qu'on voit la différence entre ce qui est une direction de l'esprit et simplement une pratique humaine. Ensuite, on a vu que ce n'est pas une histoire de prêtre. Il n'y a pas des intermédiaires entre Dieu et les hommes. Il y a maintenant un peuple de sacrificateurs que nous sommes. Il peut y avoir des fonctions différentes, mais pour nous, dans le Nouveau Testament, nous ne voyons pas un clergé, une race de personnes différentes des autres qui soient spécialement appelé par Dieu pour faire des intermédiaires. Je ne suis pas le seul porteur de la parole de Dieu. Vous l'êtes tout autant que moi. Vous avez peut-être des dons différents, mais vous êtes tout autant témoins et appelés à enseigner, édifier autour de vous, et d'une façon peut-être différente, mais dans notre nature, nous ne sommes pas différents. Ce n'est pas non plus une histoire d'homme. Le culte était souvent, dans le passé, et dans certaines églises encore, c'est une histoire d'homme. C'est d'ailleurs un paradoxe parce que on a fermé un certain nombre de choses aux femmes et en même temps, c'est elles qui constituent une grande majorité des choses qui font la force de l'Église. Donc, ce n'est pas seulement une histoire d'hommes, mais c'est une histoire pour le peuple de Dieu dans son entier. On voit dans la parole de Dieu un certain nombre de femmes qui ont pris toute leur place à des moments très importants de l'histoire du peuple de Dieu. On peut même penser à Rachel et Léa, la façon dont elles ont agi par rapport à leurs enfants, à leur position dans la famille, etc., et qu'elles ont donné des noms qui avaient des significations à chacune de leurs fils, dont par exemple Judas, louange à Dieu, parce que maintenant, voilà, mon mari s'attachera à moi. Et elles disent, j'ai combattu divinement, parce qu'elles voyaient qu'il y avait une dimension autre que simplement la dimension naturelle. On peut penser à Déborah, la prophétesse, qui a eu son rôle en son temps, ou à Anne, qui, de stérile qu'elle était, a répandu son cœur devant Dieu, a prié et a obtenu, finalement, ce miracle de Dieu de pouvoir avoir des enfants et un des plus grands prophètes que le peuple d'Israël ait connu, Samuel, qui était un géant spirituel. Donc on voit qu'au fil des années, il y a eu une multitude de gens qui n'ont pas encore vécu la réalité de l'Église, mais déjà vécu une certaine réalité du peuple de Dieu, et qu'on peut obtenir des miracles, et qu'on peut vivre quelque chose avec le Dieu vivant, et que s'il y a des règles naturelles qui s'opposent à certaines choses, Dieu est au-dessus. Il y a eu des transformations qui sont faites. On raisonne des fois en disant, voilà, tout ce qu'il faut pour que les gens puissent grandir spirituellement. J'aime rappeler que le jeune homme qui était Joseph, en prison, il n'avait pas de groupe de jeunes, hein, il n'avait personne pour l'encourager. Il était dans un environnement hostile, mais la Bible dit, Dieu était avec Joseph dans sa prison et il l'a soutenu. Donc, tout cela doit nous encourager à dire, avec Dieu, il n'y a pas d'ennui. Il n'y a pas cette... Si vous identifiez à certains moments cette démotivation ou un désintérêt quelconque, ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas attraper par des sentiments, mais au contraire, réagissez et dites, peut-être je me suis laissé un peu tiédir, j'ai perdu l'objectif, il faut que je vive de nouveau un moment dans la présence de Dieu, il faut que je laisse le Saint-Esprit de nouveau ranimer la flamme du don, hein, comme Paul l'a écrit à Timothée, ranime la flamme du don que tu as en toi. Donc, il n'est pas dit là, et le Seigneur va ranimer la flamme du don. Voilà. Autant il a dit, fortifiez-vous aussi par sa force puissante qui agit en vous. Donc il y a des choses à faire. Donc encourageons-nous mutuellement pour faire ces choses, pour être vraiment ce peuple de Dieu qui est en plein dans l'action, mais dans l'action parce qu'on entend de lui, parce qu'on est dans sa présence, parce qu'on voit qu'il est avec nous au quotidien. Et donc on sera aussi, dans ce sens, des témoins autour de nous. Parce que, on n'est pas comme les autres. Mais qu'est-ce que je vais encore faire de ma soirée m'asseoir devant la télé jusqu'à ce que je m'endorme. Il y a des choses plus élevées. Et pendant ce temps, on se plaint que le temps passe trop vite. Et puis, il y a tellement de choses paradoxales et incohérentes. Mais nous, encourageons-nous aussi longtemps qu'on puisse le faire pour vivre des choses avec lui. Ben, prions ensemble. Seigneur, je prie vraiment pour chacun d'entre nous et tous ceux qui vont entendre ce que j'ai dit, pour que nous laissions attirer par toi. On veut vraiment vivre des choses avec toi, de réaliser la présence de Dieu dans notre vie. Et nous savons que tu n'es pas limité, tu peux agir pour chacun d'entre nous à tous égards. Nous sommes des êtres créés par toi, à ton image. Tu nous as créés esprit, âme et corps. Et quels que soient maintenant les besoins présents, nous te remercions ensemble parce que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Tu as fait des promesses dans ce sens. Les promesses sont dans la parole de Dieu. Tu as dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Mais plus particulièrement, notre prière va maintenant dans ce que nous pouvons vivre dans l'esprit. Parce que nous savons que si tu retirais ton souffle, notre corps pourrait tomber raide mort, mais notre esprit continuerait à exister. Et exister dans ta présence pour ceux qui te connaissent, pour ceux qui t'ont accepté, pour ceux qui ont reçu ton salut. Et nous te remercions maintenant parce que tu as dit, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Nous voulons prendre un moment maintenant pour expérimenter cette communion avec toi en esprit et en vérité. Nous voulons répandre notre cœur devant toi. Et les choses que nous ne pouvons pas exprimer, ta parole nous dit que nous pouvons aussi prier avec des soupirs inexprimables. Je prie pour tous les besoins vraiment profonds qui sont enfouis en chacun de nous. Quelles que soient maintenant les craintes, les inquiétudes, les soucis pour l'avenir, les interrogations de ce que nous allons faire, ce que nous allons entreprendre. Ce qui va se passer cette semaine, notre quotidien, le travail, les déplacements, tout ce qui peut nous préoccuper d'une façon ou d'une autre. Nous voulons nous y préparer spirituellement en nous appuyant sur toi. Nous voulons que cette parole qui dit de se décharger sur toi de tous nos soucis devienne réalité spirituelle. Nous n'avons pas à porter toutes ces choses que tu as portées pour nous. Nous voulons nous rappeler de toutes les paroles qui disent « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Je ne sais pas s'il y a des personnes spécialement fatiguées et chargées, mais souvent dans la vie que nous menons, nous pouvons avoir des préoccupations. Mais c'est ta volonté et c'est ton désir que chacun de tes enfants puisse te servir chaque jour sans crainte. Merci de pouvoir nous confier en toi. Merci pour toutes les paroles de Dieu qui sont à notre disposition. Merci pour la Bible que nous pouvons lire. Merci pour le Saint-Esprit qui nous éclaire. Tes paroles sont esprit et vie. Je vais encore le lire vraiment d'une façon bien précise dans 1 Pierre 4. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. dès aujourd'hui? Devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.